Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir aus los. Ich will dich bloß.
Und Femme. Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Si l'on demande à une citoyenne helvétique âgée de plus de 40 ans ce qu'elle faisait au soir du 7 février 1971, il y a de fortes chances pour qu'elle réponde, comme tant d'autres, « Je sablais le champagne ». Ce jour-là, en effet, la majorité des hommes de Suisse accordaient, oh oui, aux femmes enfin le droit de se rendre à l'isoloir pour voter. Cela fait donc 25 ans que le combat des femmes pour l'obtention des droits politiques à l'échelon fédéral a pris une tournure décisive. Bonjour et bienvenue dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et oui, nous sommes très heureuses de fêter avec vous aujourd'hui ces 25 ans. Bien évidemment, heureusement pour nous. Et cette chanson de Vera Cass nous le rappelle. Depuis ce 7 février 1971, eh bien, les femmes ont continué à se battre et c'est toutes ces victoires qu'on pourrait aussi célébrer aujourd'hui.
Pour le ménage, le temps, le travail.
Vera Kass dans Remue Ménage, on de femme, Radio Zone 93.8. Et avec vous aujourd'hui, eh bien, nous allons faire un petit tour d'horizon de la presse et de la façon dont celle-ci évoque, rappelle, se souvient avec beaucoup d'arguments, de témoignages et d'opinions sur ce fameux jour du 7 février 1971, date à laquelle les femmes se voyaient enfin accordées, puisque ce n'est pas elles qui l'ont décidé, bien que ce soit elles qui se soient battues pour, qui recevaient enfin le droit de s'exprimer au niveau politique dans leur pays. Alors, toutes sortes de journaux, le journal Femmes Suisses, que vous recevez certainement chez vous, si ce n'est pas le cas, il est encore temps de vous abonner, un changement de rédactrice en chef amène toutes sortes de nouveautés dans le journal, puisque désormais c'est Brigitte Montilleri qui est à la barre de Femmes Suisses. Aussi avec nous Le Courrier, le journal Le Courrier à Genève, qui depuis plusieurs jours déjà donnait des éléments par rapport à ce 7 février 1971 dans ses pages. Le journal de Genève, qui lui aussi se rappelle cette date avec des témoignages de femmes que nous n'avons pas forcément l'habitude d'interroger dans Remue Ménage, mais dont il sera intéressant d'avoir leur avis sur ce qu'elles avaient vécu à l'époque au moment de cette date particulière. Et puis la Tribune de Genève, qui elle donne la parole au Bureau de l'égalité de Genève pour en ce jour, pour savoir ce qui va se faire à Genève du point de vue de l'égalité. Alors tout de suite, un petit tour du monde du droit de vote, si je puis dire, puisque vous le savez bien, la Suisse est le dernier pays avant le Liechtenstein à accorder le droit de vote à ses femmes. Première des premières à avoir obtenu le droit de vote, eh bien, ce sont les femmes de l'État du Wyoming aux USA, qui l'ont obtenu en 1869. Ça fait tout drôle, non ? 1869, plus de 100 ans avant les femmes suisses. En Europe, eh bien, ce sont les Finlandaises qui ouvrent la voie des urnes, puisque c'est en 1906 qu'elles obtiendront le droit de vote, suivi des Norvégiennes en 1913, des Danoises et des Islandaises en 1915. Donc vous voyez que les femmes du Nord sont bien à l'avant-garde. Du moins leurs hommes, puisque c'est eux qu'ils vont leur accorder le droit de vote. Et puis ce sera le tour des Hollandaises, des Soviétiques et des Anglaises qui en 1917, heureusement la Révolution accorde ce droit aux femmes soviétiques, qui seront tous ces trois pays talonnés par les Luxembourgeoises et les Allemandes en 1918. Les femmes françaises devront attendre jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est en 1944 qu'elles obtiendront le droit de vote, tout comme l'Italie et le Japon qui donnera le droit de vote en 1945 à ces femmes, ou encore l'Albanie en 1946. Les autres pays suivront finalement, et on aura le Soudan en 1965 et la Suisse en 1971. Alors, impressions souvenirs de 1971, on les trouve dans le journal Femmes Suisses. Certaines femmes témoignent. J'avais 22 ans à l'époque, j'étais féministe, je votais à Genève. Donc les femmes genevoises en 1971 avaient déjà le droit de vote, nous en reparlerons tout de suite. Mais je ne me souviens pas du jour où nous avons obtenu le droit de vote au niveau fédéral. Le droit de vote, moi, ça ne m'a pas fait grand-chose. Je votais et j'étais même conseillère municipale. Moi non plus, et puis les Vaudois se vantaient d'être les premiers à l'avoir octroyé. Moi, j'ai été très déçue de noter que les femmes ne l'avaient pas obtenu dans tous les coteaux alémaniques. Moi aussi. J'étais tellement engagée dans cette bataille, alors ce bastion directructible m'a déçue. Cela m'a fait un gros effet, car ne pas avoir le droit de vote était inconcevable pour la plupart des étrangères que je côtoyais. J'ai été soulagée de l'avoir. Lorsque la nouvelle a été annoncée à Trinidad-Tobago, où je me trouvais alors, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1946, eh bien, les gens là-bas sont tombés des nues. Alors, je vous le disais tout à l'heure, les femmes au soir du 7 février 1971 devaient bien sûr sabler le champagne un petit peu partout. Alors, comment en était-on arrivé à ce soir de bonheur ? Eh bien, quelques petits rappels rapides du long processus qu'il a fallu suivre pour enfin arriver à l'obtention de ce droit de vote ce 7 février 1971. Alors, la première fois que le sujet est abordé sur le plan national, cela date de 1909. Vous voyez que même rien, quand on a posé la question pour la première fois, cela a pris du temps. Alors 1909, lorsque se crée, c'est là que la question est posée, à fin janvier, l'Association nationale suisse pour le suffrage féminin qui regroupe les associations locales de 5 cantons. L'objectif inscrit dans la dénomination de cette association ne laisse planer aucun doute. Il se veut le pendant helvétique d'un courant qui commence à percer un petit peu partout dans les pays dits démocratiques. Donc, voilà une première tentative. Et puis, 3 ans plus tard, 1912, c'est au tour du Parti socialiste de se lancer dans la bataille en faveur du suffrage féminin. En décembre 1918, 2 conseillers nationaux, le socialiste zurichois Hermann Gröhlich et le radical balois Emil Göttinsheim, déposent chacun une motion invitant le Conseil fédéral à présenter un rapport sur un projet de révision de la Constitution afin d'y introduire le droit de vote et d'éligibilité des femmes. Quels étaient leurs arguments? La part de plus en plus active des femmes dans la société et le principe des droits de l'homme qui ne fait pas de distinction entre les sexes nous oblige à faire cette démarche. Quelle est la réponse des opposants? Eh bien, parmi eux, on se plaît à relever que l'obtention du suffrage féminin risquerait de briser l'équilibre séculaire de la famille où chaque membre possède un rôle bien établi. De plus, on répand l'idée selon laquelle une majorité de femmes ne veulent pas de ce droit. Et finalement, la majorité du Parlement se range du côté des motionnaires. La balle est dorénavant dans le camp du Conseil fédéral, qui donc devrait s'empresser de faire quelque chose. Et pourtant, il range la motion aux oubliettes. L'espoir suscité par ces deux motions se transforme pour les femmes en déception à mesure que le temps passe. En effet, en 1928, elles décident, pour réagir, ne pas succomber à cette déception, de réagir et d'organiser ce qui donnera la plus importante pétition de tous les temps de cette histoire. Lancée en décembre 1928 et soutenue par 13 associations féminines, dont 8 associations mixtes et 2 partis politiques, la récolte de signatures s'achève 6 mois plus tard et elle réunit 2500 signatures, dont 79 000 signatures masculines. Fait significatif, qui se confirmera bien des années plus tard lors de la récolte, l'accueil le plus favorable a été enregistré en Suisse romande, la Suisse orientale, se montrant particulièrement hostile au droit de vote féminin. Alors, cette pétition demandait l'instauration du suffrage féminin par voie constitutionnelle et elle a le mérite de réveiller le Parlement, mais pas le Conseil fédéral. Ce dernier, malgré cette deuxième invite et cette fois-ci provenant du peuple, très clairement, ne se prononce toujours pas sur l'opportunité d'instaurer le suffrage féminin. Les années qui suivent sont loin d'être favorables aux femmes. C'est une période de crise, menace du fascisme, qui font craindre pour la survie de la démocratie tout court. Démocratie, rappelons-le, strictement masculine toujours. Lorsque survient la Seconde Guerre mondiale, les femmes, on le sait bien, ont remplacé sans coup férir les hommes qui sont partis aux frontières pour assurer la sécurité du pays. Et on le sait bien aussi, une fois le conflit achevé, eh bien, les femmes espèrent qu'on reconnaîtra désormais leur rôle de partenaire à part entière dans la société helvétique, vu le rôle qu'elles ont joué. D'autant plus qu'en août 1946, le département fédéral de justice et police leur accorde le droit de siéger dans les commissions extra-parlementaires. D'autant plus aussi que le pape Pie XII se prononce en faveur du droit de vote au féminin. Tiens, tiens, plus progressiste à l'époque. Ce dernier estime en effet, et l'argument sera abondamment repris, que la voix des femmes est une voie vers la paix et l'harmonie sociale. Notre actuel pape devrait peut-être bien se replonger dans l'histoire des anciens papes. Pourtant, la Suisse fait la sourde oreille et si le Conseil fédéral se penche enfin sur le sujet, ce n'est que pour constater qu'une votation sur le principe du droit de vote des femmes serait trop prématurée à son avis. Un argument qui ignore superbement que cette revendication féminine a déjà abouti dans la plupart des pays d'Europe. C'est alors que le Conseil national va prendre le taureau par les cornes, semble-t-il. Enfin, appelons ça vraiment prendre le taureau par les cornes. Le 13 juin 1951, il se montre favorable à l'élaboration d'un projet de loi fédérale introduisant le suffrage féminin. Mais lors de la session d'automne, le Conseil des États, à deux voix près, bloque toute possibilité de votation populaire en refusant de suivre la Chambre basse, donc le Conseil national. L'année suivante est porteuse d'un nouvel espoir. Le Conseil fédéral promet en effet de donner un rapport détaillé sur le sujet. Il mettra du temps à le sortir, mais il tient parole. Et le 22 février 1957, dans un message à l'Assemblée fédérale sur l'institution du suffrage féminin, il propose enfin la révision partielle de la Constitution pour y réintroduire le droit de vote et l'éligibilité des femmes. Le moment retenu par les autorités fédérales pour présenter leur rapport semble particulièrement bien choisi. En effet, 10 jours plus tard, doit avoir lieu une votation populaire en vue d'introduire le service civil obligatoire pour les femmes. Ah, le Conseil fédéral estime pourtant que si on veut imposer aux femmes de nouvelles obligations, il faudrait peut-être leur accorder par ailleurs des contreparties. Le message est reçu 5 sur 5 par le peuple, qui rejette l'initiative sur la protection civile. Alors, est-ce que l'heure du changement a sonné ? Eh bien, pas du tout, semble-t-il, puisque le 1er février 1959 a lieu une votation fédérale sur le suffrage féminin qui se solde par une importante défaite. C'est 1 million de votants, 655 000 refusent un projet de loi qui est pourtant accepté par 3 cantons, Genève, Vaud et Neuchâtel. Mais les femmes n'abandonnent pas la partie pour autant, vous vous en seriez douté. Multipliant les actions et autres manifestations, elles parviennent année après année à briser l'hégémonie masculine dans plusieurs cantons. Lorsque le 23 décembre 1969, le Conseil fédéral présente aux chambres un nouveau projet de loi constitutionnelle qui tient compte... On ne l'avouera jamais, bien sûr, de la vague du féminisme qui naît petit à petit en Suisse, eh bien, elles se disent que l'heure de la victoire est proche, puisque 13 mois plus tard, le 7 février 1971, eh bien, le verdict tombe enfin. 621 109 oui contre 327 727 non. Le projet est accepté par 14 cantons et 3 demi-cantons. Alors après plus de 60 ans de lutte, les femmes ont ainsi acquis les mêmes droits politiques que les hommes. Et même si les cantons réfractaires suisse-allemands suivent peu à peu, il faudra pourtant patienter jusqu'au 27 novembre 1990 pour que le droit de vote soit donné intégralement aux femmes en Suisse. En effet, il faudra une décision du tribunal fédéral pour briser le dernier bastion, c'est-à-dire à Appenzell-Rhône intérieur, où là, le suffrage était toujours exclusivement féminin, masculin.
Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
Komm mit mir, aufs Floß, ich will dich, bloß.
Komm mit mir, aufs Floß, ich will dich, bloß.
Fall hinein, in meinen Schlund, tanz mit mir, im Rund.
Tanz mit mir, tanz mit mir im Rund. Fall hinein, fall in meinen Schlund.
Prochaine dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et aujourd'hui, 7 février 1996, 25 ans aujourd'hui, pour marquer l'obtention du droit de vote par les femmes en Suisse. Nous faisons un petit tour de la presse que l'on peut trouver à Genève et France voisine, je suppose. Tour de presse qui nous a permis de faire un historique qui décrivait comment les femmes ont enfin abouti à obtenir ce fameux droit de vote. C'était Le Courrier qui nous offrait cet historique. Et maintenant, le journal de Genève nous offre le témoignage d'une femme bourgeoise, Elisabeth Blunschi, qui était députée et qui a été élue députée au Conseil national sans pour autant avoir le droit de vote dans son canton, c'est-à-dire le canton de Schwytz. Alors Elisabeth Blunschi Steiner est brillamment élue au Conseil national en octobre 1971. Or, cette démocrate chrétienne schwitzoise de tendance chrétienne sociale devra attendre le 5 mars 1972 pour obtenir le droit de vote et d'éligibilité dans son propre canton. Alors je vous le disais, femme bourgeoise, il est assez rare que nous ayons des femmes à notre micro de la bourgeoisie, mais pourtant ici, il est intéressant de savoir quel est le parcours de cette femme. Elle est fille d'un juge fédéral, docteur en droit, avocate et partenaire de son mari dans leur étude à Auschwitz. Et Elisabeth Blunschi estime être entrée en politique, dit-elle, tout naturellement. Tout d'abord par le mariage, parce que son époux, député au Grand Conseil, était passionné de politique. Je ne savais pas qu'en se mariant, on épousait aussi les passions de son mari, mais enfin. Et parallèlement par un engagement dans les associations féminines, seul terrain d'action alors ouvert aux femmes. Elle préside la Ligue suisse des femmes catholiques au moment de la campagne pour l'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux femmes sur le plan fédéral. C'est elle qui provoque une assemblée générale extraordinaire pour que la Ligue, abandonnant sa traditionnelle position de neutralité, eut égard à l'opposition de l'Église catholique à l'égalité politique des femmes. Ah, je croyais que Pie XII, qu'est-ce qu'il avait dit ? Enfin bref, prenne enfin clairement position en faveur du suffrage féminin. En 1959, rappelle-t-elle, la moitié des évêques suisses au moins n'y étaient plus opposés. Alors, à l'approche des élections fédérales de 1971, se souvient-elle, le conseiller national de son parti souhaite passer le témoin à son mari, Alfred Blunschi. « Et pourquoi pas ma femme ne pourrait-elle pas être candidate à ma place » s'est-il exclamé. Ah, le divin mari. Grâce à l'appui des femmes en particulier, Elisabeth Blunschi est devenue la première représentante des Wahlstätten assiégées au Conseil national. Elle déplore cependant qu'elle est la seule de son canton pour l'instant, après avoir renoncé à son mandat en 1987 au terme de 16 ans d'activité parlementaire. Le point fort de la carrière politique de l'avocate de Auschwitz a été sa nomination à la présidence du Conseil national de mai à novembre 1977, lorsqu'elle a été appelée à succéder à Hans Weyer, lui-même élu au gouvernement valaisan. Comment est-ce que le journal de Genève retraçait à l'époque ce qui se passait lors de la campagne pour le suffrage féminin ? Eh bien, il n'était pas rare de lire ce type de réflexion-là dans le courrier des lecteurs du journal de Genève. Je cite « J'aurais d'autres arguments encore contre le suffrage féminin. L'un est que je déplorerais la disparition de la courtoisie. La courtoisie est née au Moyen-Âge, de la totale infériorité de la femme, comme une sorte de compensation. Entre citoyenne et citoyen égaux en droit, elle n'aura plus la même raison d'être. Seule la question d'âge serait pertinente. » « Un lecteur voit dans le suffrage féminin le grain de sable qui ferait crisser les rouages bien huilés de la démocratie masculine. La démocratie directe ne saurait s'accommoder d'un grand nombre d'intermédiaires entre le peuple et l'État, écrit-il. Or, en introduisant directement les femmes dans le circuit politique, on augmente le nombre des partis et partant, on diminue l'efficacité de la démocratie directe. De plus, les hommes sont les meilleurs porte-parole et défenseurs des intérêts des femmes. Dès lors, pourquoi celles-ci souhaiteraient-elles participer à la vie politique ? Pour d'autres, le suffrage féminin dérange l'ordre naturel.